Débat IMO, une émission proposée par Wininvest sur Radio IMO et Radio Territoria.
Eh bien, salut à tous et merci d'être avec nous pour cette toute nouvelle collection de débats IMO. J'allais dire presque la réponse est dans le titre, vous allez voir, débat, ça veut dire qu'il va y avoir débat. On est ravis d'être avec vous, on a produit cette émission avec nos amis de WeInvest. Clairement, sans éluder aucun sujet ni aucune question, avec beaucoup d'informations auxquelles vous aurez toutes et tous accès, et bien sûr, des débats en matière d'expertise. On va parler d'immobilier, on va parler d'évolution des usages, on va parler du secteur qui a été quand même sévèrement malmené. On va poser toutes les questions qui vont bien pour que vous puissiez, vous les amis, avoir des clés de lisibilité. Quel regard sur le logement, quel regard sur la dynamique du marché, le regard sur ce marché, l'évolution même des métiers de l'immobilier, c'est ce qu'on va décrypter avec nous. Mais tout d'abord, au sommaire de l'émission, on va commencer cette émission avec un édito que l'on a co-construit avec notre ami Xavier Bellevaux, le directeur général de WeInvest France, qui est avec nous sur le plateau. Salut Xavier.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va?
Ça va bien.
On est ravis justement pour cette première numéro de cette collection de débats IMO. Ensuite, on va accueillir un invité qui est avec nous également sur le plateau, c'est Henri Buzicazo. Bonjour Henri.
Bonjour Sylvain.
Alors Henri, c'est la personne incontournable de l'immobilier. C'est une personne qui est à la fois dans la réflexion, mais aussi dans les caractères opérationnels. Ce qu'on apprécie avant tout avec vous Henri, c'est le débat d'idées. Parce que vous avez toujours conçu l'idée que les politiques du logement étaient des politiques publiques qui se concevaient, qui se réfléchissaient avec un caractère opérationnel. Je rappelle juste que vous êtes le président de l'Institut des managements des services immobiliers, vous avez été conseiller du ministre Meignery, vous avez été
enseignant. Ça ne me rajeunit pas, mais je le dis à
vous avez été enseignant. Vous avez été enseignant, ce qu'on ne sait pas assez, vous avez fait de la philo, vous avez été à la tête de grandes entreprises, même d'entreprises qui ont été cotées, comme Foncia. Vous avez été aussi aux affaires de grands corps intermédiaires, vous avez été directeur général de la FNIM. Bref, vous êtes celui sur lequel on se penche quand on a besoin d'idées et besoin de réflexion. D'ailleurs,
je suis là.
Tout à l'heure, c'est le ministre du Logement, ni plus ni moins, qui vous attend justement pour discuter avec vous. Merci d'avoir accepté, avec votre calendrier contraint, de faire participer,
de participer
à cette émission de débat IMO avec notre ami Xavier. On le souhaitait très très vivement. On
va parler un plaisir aussi de retrouver Xavier. J'ajoute,
également. J'ajoute. Merci.
On va parler d'innovation également avec Julien Bénard qui est avec nous. Bonjour Julien.
Bonjour Sylvain.
Vous êtes le cofondateur de Kazam. Alors vous avez la verticale innovation, hein, on va dire les choses comme ça. Vous allez nous expliquer aussi, dans ce débat d'experts, comment effectivement on peut avoir un peu plus de fluidité dans un marché contraint, un marché malmené, mais un marché essentiel pour le besoin des Français. Je rappelle que le logement des Français, c'est le premier élément de la pyramide de Maslow, qui est celui de s'abriter. C'est là que se conçoivent les vies, les projets, et aussi les projets de vie, bien évidemment, et on en sait tous quelque chose. Voilà. Pour le sommaire de cette émission, vous allez voir, c'est assez costaud. Et on terminera d'ailleurs tout à l'heure avec notre amie Cécile de Rocleur, vous savez, d'Empruntis, qui est régulièrement sur nos antennes. Parce qu'on s'est dit avec Xavier Bellevaux et l'ensemble de ses équipes qu'on allait faire un truc qui s'appelle le vrai du faux. Et en fait, en bas, vous donnez chaque numéro de cette collection de débats IMO, des clés de compréhension sur ça vous concerne directement, les sujets que vous vivez au quotidien, que vous soyez particulier, professionnel. On est là pour au bout répondre. C'est le but que l'on s'est assigné avec WeInvest France. Et c'est parti pour l'édito de Xavier Bellevaux. L'édito pour Xavier, c'est à vous.
Alors, rapidement, il y a quelques semaines, Kylian Mbappé disait que le football a changé. Eh bien, j'ai envie de dire que l'immobilier a changé. Et il a changé surtout depuis le Covid. Alors, on peut dire ce qu'on veut, il a évolué au fur et à mesure des années, mais depuis le Covid, on voit que les Français ont un rapport différent au logement. 49%, Sylvain, des Français sortent moins de chez eux depuis 2020. Et en 2023, on
même
voit
après
bien. Même après le Covid, on voit bien. Par rapport à 2020, on a 49% des Français qui sortent moins. Alors, on a eu plein de crises multiples qui veulent l'expliquer. La crise sanitaire, la crise économique. On a 46% des Français qui vont moins au cinéma depuis 2020. C'est pas anodin. 27% des Français qui font moins de sport. Oui, alors on entend partout, tout le monde fait du sport,
mais
etc. Et ben non, on a quand même moins 25% des Français qui font moins de sport en 2023 vs 2020. Alors cette étude, elle est assez simple. Hein. C'est Ipsos Qualitel de 2023, donc elle est assez récente. Moins 28% des Français qui sont plus souvent se font livrer des repas chez eux que d'aller au restaurant. Moins 25% des Français qui regardent plus de séries ou de films chez eux. Et on a également moins 24% des Français qui font plus de sport à domicile. On retrouve les choses. Alors, c'est pas le tout, on va dire, mais pourquoi? Un, le gain de temps. On n'a jamais autant couru après le temps. Jamais personne n'a assez de temps actuellement. L'arrivée du télétravail, depuis 61% de personnes sont mises à rester plus chez eux depuis le télétravail. Alors, on pourrait se dire, c'est une bonne chose. Mais la problématique, elle est là. Les logements ne sont pas forcément adaptés. Bah, tous les logements ne sont pas adaptés. Quand vous avez des collaborateurs qui vivent à Paris dans 10 mètres carrés et qui se retrouvent en télétravail, plusieurs jours par semaine, bah forcément, c'est pas facile. 47% des Français bossent dans le salon, 19% dans la chambre. Seulement 30% des personnes ont un bureau dédié. Donc c'est pas
anodin. Il y a presque une inéquité dans le travail au logement, en fait, par rapport au bureau, je veux dire.
En fait, tout a évolué depuis 2020. Je pense qu'on ne voyait pas arriver le Covid. Et c'est vrai que depuis le Covid, bah, on s'est rendu plein de choses. On a plein de gens qui ont quitté Paris, qui ont voulu avoir des espaces plus grands. Et puis bah, après, il y a plus de problématiques. Au niveau des collaborateurs, aujourd'hui, moi, j'en suis bien placé pour le voir. J'ai des collaborateurs qui habitent Nice, Lille, La Rochelle. On a des collaborateurs qui viennent de tout horizon. Mais ce n'est pas tout à fait également que ça. On voit aussi que les modes de transport ont changé. On le voit bien, aujourd'hui, on a plus 17% des personnes qui utilisent le vélo. Parce que grâce au déménagement, on a plus de personnes qui se rapprochent. C'est devenu un vrai sujet. Les gens ne veulent plus travailler trop loin. Ou même quand ils viennent, ils prennent un hôtel quand ils sont en télétravail ou un Airbnb, ils regardent toujours à rester à moins de 15 minutes à pied. Donc ça, c'est un fait réel. Et 41% des personnes qui ont une voiture électrique aujourd'hui déclarent qu'il n'y a pas suffisamment de bornes de rechargement chez eux. Quand vous êtes monoccupant dans une maison, bah, c'est facile, mais quand vous êtes en copropriété, c'est une autre histoire. Donc on se rend bien compte qu'on a un problème de logement, mais on a aussi un problème de logement qui ne sont pas forcément équipés pour les années à venir. Et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, notamment par rapport à toutes les nouvelles réglementations. Donc on se rend bien compte qu'on a une évolution du mode de consommation des Français.
Ça, c'est incroyable. Moi, j'aurais jamais imaginé qu'au sortir du Covid, je te rappelle, Henri, il y avait une envie de sortir absolument incroyable, qui était même d'ailleurs encadrée. J'aurais jamais imaginé. Peut-être une réaction rapidement, Henri Buzicazo.
Ah, une chose. Sur le fait que le bureau soit un élément d'égalité, on est en train de l'oublier. C'est pareil pour l'école. L'école, lorsqu'on est dans les locaux d'une école, la mienne, une autre, eh bien, on est tous logés à la même enseigne, et si possible, bien logés. Bon, on fait en sorte que les locaux des écoles, hein, Sylvain, c'est un métier que tu as fait, qu'un campus soit agréable. Les bureaux, les entreprises font en sorte qu'ils soient agréables avec, de la luminosité. Aujourd'hui, il y a une inégalité devant le travail. À cause de ces phénomènes. Et effectivement, la pandémie a cassé tout un tas de ressorts, de liens, de relations. Moi, je suis très étonné hein, de ces chiffres-là, mais d'abord, ils sont là. Et en effet, c'est terrible parce que derrière, je ne sais pas s'il y aura une réversibilité. Ça, c'est une grande question. J'en parlais avec André Hichet ce matin,
qui vient de recevoir une mission. Oui, la Banque des Territoires.
Sur la transformation des bureaux en logement. Mais on parlait des bureaux et du rapport au travail. Oui. Et il me disait, tu sais. Allez, j'ai peut-être un propos d'ancien, mais moi, je suis inquiet de la relation au travail qui s'est créée. Parce que la relation au bureau, aujourd'hui, est devenue élastique et qu'on cherche à ne pas y aller. Mais quand on est chez soi, ceux qui s'expriment pour dire « mais on trouve très bien de travailler de chez soi », c'est qu'ils ont des moyens chez eux de bien travailler. C'est exactement ce que tu disais. Ils ont une pièce de plus.
Mais voilà. C'est vrai que... Henri, par rapport à ça, je me permets, Sylvain, je pense que aussi quelque part, il faut qu'on se dise quelque chose. Le télétravail est rentré dans les coutumes.
Oui, c'est
sûr. Je pense qu'aujourd'hui, les collaborateurs, ce qu'ils apprécient, c'est d'avoir un mix. Un mix au travail pour travailler les projets de fond avec les collaborateurs, retrouver, mais aussi avoir la possibilité d'avoir une hygiène de vie et que le dirigeant accepte aussi de manager ses collaborateurs aujourd'hui à la tâche. Moi, je suis complètement favorable au télétravail.
Mais alors, c'est quoi le rythme pour vos collaborateurs ?
Mes collaborateurs sont 2 jours en télétravail, le vendredi et lundi, et 3 jours en entreprise.
Ah, voilà.
Et en entreprise, ça nous permet de travailler des sujets de fond. Et il y a un deuxième sujet qui va être important de discuter, Henri. Tu dis qu'il y a un bouleversement, mais le deuxième bouleversement, on n'en parle pas assez, c'est le rapport des jeunes face au logement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, on faisait tout à l'heure, on parlait de quelque chose, j'ai acheté mon premier appartement à 21 ans.
Quelle chance.
Et j'ai un de mes collaborateurs qui fait partie des exceptions, qui est notre community manager, il a acheté son appartement à 23 ans. Mais quand vous faites le point aujourd'hui, il y en a de moins en moins qui passent le cap. Et ils vous disent, moi j'investisse dans la crypto-monnaie, dans autre chose, et je vais louer pour pouvoir en fait diversifier mes revenus.
C'est la génération donc, Macron, ça.
Mais il y a deux sujets, c'est-à-dire que dans l'immobilier, il y a deux sujets.
Mais ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils apprécient plus la. Enfin,
c'est pas forcément ça, c'est-à-dire
c'est
que c'est
pas
devenu.
À la propriété.
C'est devenu tellement cher l'accès à la propriété. Voilà. Dans des conditions, quand aujourd'hui vous devez payer pour 12 mètres carrés dans Paris 1 000 euros par mois pratiquement, bah, il y a un problème.
Il y a un problème.
C'est sûr. Donc forcément, c'est aussi le système que nous créons.
Julien, vous qui êtes plutôt dans l'innovation, vous avez d'ailleurs, j'aimerais bien que vous nous expliquiez en 3-4 phrases un peu le pitch de Kazam, puis une réaction sur ce qui s'est dit, ça doit aussi vous étonner autant que moi.
Oui, avec plaisir. Donc Kazam, pour d'abord présenter la société, on conseille, on aide les professionnels de l'immobilier, donc à conseiller propriétaires et vendeurs et acquéreurs sur la rénovation énergétique de leurs biens. Et donc, on les forme et on les outille avec un simulateur DPE qui va leur permettre donc d'expliquer à un particulier, donc acquéreur, quel est l'impact.
Mais est-ce que, par exemple, vous les aidez à. Vous faites les dossiers de prime.
Non,
de prime.
Nous, on est dans une phase plutôt d'information, donc d'accompagnement pour qu'ils aient les outils, les arguments face à un acquéreur qui se poserait des questions sur le montant des travaux, sur le montant des aides auxquelles il pourrait prétendre. Et donc on facilite la réalisation.
Vous aidez les particuliers à préparer leur dossier, c'est ça ?
Non, nous, on s'arrête à la phase de outiller les professionnels.
D'accord.
Pour qu'ils aient de quoi argumenter face à un propriétaire qui...
Et donc vos clients naturels, c'est quoi ? C'est des administrateurs de biens, des syndics de copro, des agents immobiliers ?
Donc on est sur de la transaction, donc ouais. Les professionnels qui font des transactions immobilières.
Donc agents immobiliers,
transactions immobiliers et donc de la gestion locative.
Et comment vous gagnez votre vie alors ?
Alors on gagne notre vie en proposant un logiciel, ce qu'on appelle
d'accord.
un SaaS, hein,
donc
qui est
avec un abonnement
donc, simplement, okay. et également avec des formations, puisque okay. donc on permet à des agents immobiliers de devenir éco-conseillers en immobilier pour rendre possible un certain nombre de transactions qui ne seraient aujourd'hui pas possibles si on n'avait pas connaissance de l'ensemble des aides.
Combien de temps vous existez ?
Ça fait 4 ans. 4 ans.
Et résultat, pronostic ?
Pronostic de la suite. On est partenaire de gros acteurs de type Castorama, par exemple, dans le milieu du bâtiment, aussi de grands réseaux immobiliers. Mm-hmm. Et donc, on se développe à notre rythme et ça se passe plutôt bien pour nous.
Merci. Et alors, une petite réaction au bout, dans la génération, peut-être pas forcément la génération de 20 ans, mais entre 20 et 40.
Donc, ce gars est plus jeune que moi.
Quand tu le vois, et que moi.
J'ai écrit où ?
C'est bien que tu sois en face de nous.
J'ai 32 ans seulement.
32 ans.
Voilà, j'incarne de la jeunesse
pareil,
ici.
Hein.
C'est ça.
32 ans. Mais lui, c'est pas pareil. Alors, Henri, c'est pas pareil. Il a fait le Vietnam. Hein, quand même. Justement, qu'est-ce que vous en retirez ? Est-ce que vous, 32 ans, que la génération, ben justement, vous faites moins de sport, vous avez, comment vous partagez cette idée ? Et est-ce que les collabs de Kazam, eux aussi sont en télétravail
Ouais, c'est assez marrant parce que vous avez évoqué deux sujets qui me parlent beaucoup. Premièrement, c'est que nous, on est situé d'abord sur deux sites, donc à Valence et à Paris.
Ouais.
J'ai des collaborateurs qui sont en télétravail également. Enfin, ou en tout cas, moi, qui ne peux pas être sur les deux sites. Il y a une forme de télétravail. Le deuxième élément, c'est donc, moi, j'habite à Valence. J'ai un appartement à Paris que j'ai mis en location et je navigue un petit peu entre les deux villes. Donc, en fait, ce mouvement où, en fait, on n'est pas forcément propriétaire de son bien, on va plutôt le louer, c'est quelque chose qui me parle beaucoup.
Et c'est beaucoup moins cher à Valence, hein, je précise, hein, je confirme. Merci en tout cas. Autre sujet très intéressant, notamment, c'est l'évolution du métier de l'agent. Bon, on le voit, le métier d'agent immobilier, et plus largement, j'allais dire, même la question de l'intermédiation, notamment sur la carte T. La carte T, c'est une carte professionnelle qui est délivrée par la Chambre de commerce et d'industrie.
Oui.
Elle est compétente pour enregistrer ses cartes et délivrer le renouvellement qui a lieu tous les 3 ans, je crois, sous couvert d'une attestation de remplir des obligations de formation continue. Jusque-là, j'ai bien.
Oui.
Question, dans un mouvement où on réfléchit sur les formes de déréglementation, où on se dit peut-être que la variable d'ajustement sur les prix, ça serait peut-être de réduire les honoraires d'intermédiation, par exemple. C'est un peu le courant, hein. Ça, Henri, tu le sais bien, puisqu'on a déjà assisté déjà à des tentatives du gouvernement précédent d'attaquer les honoraires. Et sur la liberté d'exercer et les différents modèles de distribution, réflexion, débat ouvert, est-ce que c'est un discours d'arrière-garde ou est-ce qu'il faut peut-être enfin se pencher là-dessus et se dire... Voilà, il y a plus de voilà, la guerre est finie, on travaille tous dans le même système, voilà.
Il y a plusieurs sujets.
Voilà.
Le premier sujet qui est de dire, est-ce que on doit abandonner la carte T ? Bon, il y a eu Je pense qu'Henri, tu en diras plus que moi, mais il y a quelques années, et encore pas si longtemps que ça, effectivement, on parlait de remettre en cause, quand on parlait beaucoup des mandataires qui étaient présents, etc., et de la déréglementation, de la carte-té qu'on allait quelque part donner un peu à tout le monde, etc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas le sujet. On a plus que jamais besoin d'être formé. Et donc, je pense que ce sujet est un peu écarté. L'autre réalité qu'on rencontre, je pense que quand on regarde, par exemple, aux États-Unis ou qu'on regarde même en Belgique, hein, outre Évrin, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, en Belgique, par exemple, 90% des transactions ont lieu entre un particulier et un agent immobilier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, seulement 10% du marché s'effectue de gré à gré entre particuliers. Quand on regarde ce qui se passe en France, aujourd'hui, on est entre 35% selon la police et 40% selon la gendarmerie en des fait, transactions
ce que,
qui échappent.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'aux États-Unis, 90% de part de marché, c'est pro.
C'est également ça, bien sûr, pratiquement.
Ah. Et en France, en fait...
Aujourd'hui, on est entre 35 en fait, et 40% donc, du marché qui nous échappe.
Alors, on se trompe de combat, alors.
Et c'est exactement ce que je dis. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, et notamment depuis qu'on a passé le Covid, et pour plein de raisons, on a dit à un moment, les mandataires, c'est un effet de mode. On disait ça en 2012, en 2008, en 2015. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a pratiquement 50 000 mandataires, c'est 48 000, si je dis pas de bêtises. Plus de 100 enseignes qui sont aujourd'hui représentées.
Et c'est environ, alors certains disent qu'ils sont pas tout à fait d'accord sur les chiffres, mais environ entre 13 et 15% de part de marché.
En plus.
Ah, bien plus que ça.
Alors,
bien
de que part ça. De marché, c'est-à-dire, on est bien sur les termes, la partie intermédiaire, c'est-à-dire qui fait appel à un professionnel, oui. Agent immobilier, négociateur indépendant,
il y en a,
notaire,
il y en a combien,
aussi.
En France.
C'est de l'ordre de 25% aujourd'hui, c'est-à-dire un quart des transactions professionnalisées sont dans les mains des réseaux mandataires, voilà.
Mmh. Bien sûr, c'est 25% pratiquement, c'est une réalité.
Il n'y a plus de débat.
Mais au-delà de ça, mais il n'y a plus de débat, mais il y a toujours un débat en toile de fond, mais aujourd'hui, on doit quand même recentrer les choses. Ce qu'on doit faire, c'est nous professionnaliser plus, travailler en commun et prouver à nos clients finaux qui eux, aujourd'hui, on le disait tout à l'heure dans l'édito, ont changé de mode de consommation. Ils veulent quoi? Ils sont plus pressés qu'avant. Ils veulent de l'accompagnement. Ils veulent être plus écoutés. Ils veulent des conseillers qui soient plus performants. On parlera d'éco-conseillers, mais il faut diversifier absolument l'activité. Celui qui fait de la transaction, je l'ai toujours dit, dans les années à venir, ça sera de plus en plus compliqué pour dire presque pas possible. Donc on doit accompagner nos mandataires à travailler avec nos agents immobiliers parce qu'il y a du bon à prendre des deux parties avec... en devenant des personal shoppers pour nos clients finaux. Nos clients finaux doivent être la base de tout et on doit arrêter ces guerres qui ne servent à rien. Je ne sais pas ce qu'en pense Henri, mais...
Henri. Bon, sur l'idée de la réglementation d'un point de vue politique qui dit que, finalement, la carte-té est peut-être un frein à l'émergence de nouveaux modèles, non, etc.
Je comprends pas ça. C'est-à-dire que je vois aujourd'hui une espèce de lame de fond. On veut déréguler. Voilà, dérégulé, tout d'un coup, on attribue à la règle, à la loi, au code, aux règles du jeu, tous les travers. Bon. Est-ce qu'on a l'idée, tiens, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, de déréguler les disciplines ? D'ailleurs, chacun, si on est judoka, on monte sur le tatami, tu fais ce que tu veux, il y a de pareil, t'es rugbyman, tu es... On va être sérieux. La règle, elle vient ordonner les choses lorsqu'il y a des enjeux. Les enjeux supérieurs, c'est quoi? C'est la santé, c'est le logement. Est-ce qu'on aurait l'idée de dire, pour la santé, bah, c'est vrai que bon, on manque de médecins. Tiens, on manque de médecins. Eh ben allez, on va arrêter avec cette obligation de faire, je sais pas combien, 8 ou 9 ans maintenant d'études.
Non mais
sérieusement, je suis sérieux, Sylla. J'utilise cette métaphore parce qu'elle parle à chacun. La santé, ça parle à chacun. Les grands enjeux, c'est la santé, c'est le logement, c'est l'éducation. Est-ce qu'on aurait l'idée? Il y a eu des choses, on l'a reproché à des gouvernements. Il y a des dizaines d'années, parce qu'il a fallu faire face à des besoins démographiques. Est-ce qu'on dirait, tiens, les profs de maths, on n'en a plus, on en manque de profs de maths. Eh ben allez, on va prendre des gens, allez, qu'on fait un peu de maths, ça va le faire. Non, bon, c'est pas possible, on va pas transiger. Donc, les enjeux pour vendre un logement à quelqu'un, le louer, le gérer, gestion locative ou syndic de copropriété, qui aurait l'idée de dire, idem en B2B d'ailleurs, hein, pour gérer les locaux des entreprises, eh bien, on va prendre des gens qui, bon, n'ont pas vraiment les compétences, les trucs, ça va le faire, et ça va coûter moins cher. Et ça va coûter moins cher. Alors, ça va coûter moins cher, oui, c'est possible. Lorsqu'on dit, la loi Hoguet, c'est une barrière à l'entrée. C'est ça, hein, le rapport de l'autorité de la concurrence se dit, c'est une barrière à l'entrée, et donc, finalement, ça coûte cher aux professionnels, et donc, ils le répercutent, et ça fait des honoraires trop élevés. Mais derrière, il y a de la sécurité. Il y a du service. Alors, est-ce qu'il y a assez de services ? Non. Sylvain, moi, ça fait 35 ans que je me bats pour qu'il y ait toujours plus de services derrière les honoraires. Ça, c'est une chose. Mais je n'accréditerai jamais l'idée qu'en baissant les barrières, on va rendre service aux consommateurs et au marché. Jamais. Parce que je n'y crois pas.
Mais en même temps, moi, il y a un truc que je ne crois vraiment pas. C'est pas parce qu'on va baisser les honoraires qu'aujourd'hui que le travail va être mieux fait. On va être mieux fait. On le voit bien. On a eu les agences de papa qui ont essayé. On en a d'autres. Et on voit bien que tous ceux qui sont sur un système d'honoraires au forfait, etc., déjà, c'est pas lisible pour le client final. Le client final, bien sûr, il veut de la nouvelle technologie. Mais il veut surtout du rapport humain. Il veut qu'on s'occupe de lui plus que jamais. Il a besoin d'assistance, besoin d'accompagnement. Il hérite de situations où, quand ses parents décèdent ou autre, il ne sait pas comment s'y prendre. Le premier réflexe, c'est d'appeler son agent immobilier ou son conseiller immobilier. Par contre, Henri, quand tu sais que, une transaction sur quatre aujourd'hui se passe par le biais d'un mandataire, et notamment quand on est primo-accédant, ça veut quand même bien dire que, pour autant, le mandataire immobilier n'est pas carté. Mais pour autant, grâce au réseau, il y a quand même des actions de formation qui ont été faites, etc. Et on ne peut pas dire que le client final fasse la différence entre un IAD sans tuer.
Alors là, voilà. Xavier, pour moi, un professionnel, c'est quelqu'un qui travaille dans les règles qui sont aujourd'hui en vigueur dans notre pays, ça s'appelle la loi Auguet. La loi Auguet, elle dit, il y a des porteurs de cartes de premier rang, qu'on appelle agent immobilier.
Justement, qu'on comprenne bien, Henri, c'est quoi un premier rang?
Pour répondre aux obligations de la loi, c'est-à-dire qu'effectivement, on a une compétence qui est attestée soit par l'expérience, soit par le diplôme. Globalement, il faut un bac plus 3 ou de l'expérience. Il faut une garantie financière si on est amené à encaisser les fonds. C'est-à-dire, tu m'achètes un logement, je vais prendre une indemnité d'immobilisation pour sortir le logement du marché, tu vas me faire un chèque de 5 ou 10 % du montant, eh bien, il faut que je sois assuré, parce que si je pars avec cet argent-là, il est détourné. Bon. Et il faut une assurance en responsabilité civile professionnelle, et enfin, il faut une garantie de moralité, c'est-à-dire, il ne faut pas avoir commis de délit grave. Voilà les règles du jeu, la loi Auguet. Bon. Et puis, depuis, on a ajouté de la formation continue obligatoire, etc., etc. Les collaborateurs qui travaillent auprès de l'agent immobilier ne sont pas les porteurs de la carte professionnelle, ils ont une habilitation. C'est-à-dire que, sous couvert d'un porteur de carte, ils font le même métier. Le négociateur qui travaille chez IAD, Safety, voilà, je cite deux marques, on peut en citer 100, hein, effectivement, il y en a une centaine, n'est pas le porteur de la carte professionnelle, c'est-à-dire que lui peut n'avoir pas le bac plus 3 ou l'expérience, il n'est pas celui qui a la garantie financière, etc., mais il travaille pour le compte d'eux. C'est un collaborateur. Donc, il a les mêmes obligations, il est contrôlé de la même manière, il doit aussi suivre la formation pour renouveler tous les 3 ans son habilitation, etc., etc. Alors, ce qui a pu choquer la profession, et on l'a encore clivé, Sylvain, on va être très clair, il y en a encore qui disent « Ah, mais moi, le négociateur, il n'est pas de ma race, moi, je suis le porteur de la carte professionnelle. » Mais ça n'a pas de sens. Dans la plupart des entreprises aujourd'hui, la probabilité qu'on ait affaire à un collaborateur, et non pas au porteur de la carte, elle est de 95%. Bon. Et ça n'est pas un problème. Il faut juste que le travail soit bien fait.
Même en agence.
Mais pareil. Même en agence. Les agences.
Donc
en
le
70,
négo, il n'a pas sa carte.
En 70. Non. Non. Il a une habilitation. En 1970, quand la loi a été votée, le modèle économique des agences immobilières, c'était des entreprises familiales ou artisanales. Il y avait 2 ou 3 personnes. Donc, celui qui faisait la transaction, c'était le patron, pour être clair. Voilà. Et en hyper-proximité. Il travaillait dans sa ville, dans son village. Aujourd'hui, les agences, elles ont pour certaines encore cette taille-là, mais pour la plupart, elles ont des collaborateurs. Elles ont un négociateur, 2, 3, 5, 10 ou 5 000. Bon. Et c'est pas un problème. L'économie a évolué. Simplement, il faut que la garantie qu'a voulu le législateur en 70 soit toujours là. Moi, je m'en fiche de travailler, d'être servi par un collaborateur, mais je vais demander la même sécurité que si j'étais servi par le patron de l'entreprise.
Je suis d'accord avec toi, Henri, mais sur un sujet sur lequel je reviens...
Je voudrais avoir peut-être l'avis de Julien.
Alors, avant que j'oublie ce que j'ai à dire, parce que j'ai un petit cerveau. Je pense que ce qui est important de dire, tu parlais tout à l'heure que c'est toujours quelque chose de clivant, mais on a aussi une cause à effet. Les mandataires, si on avait été au niveau des agents immobiliers ultra sérieux et compétents et ouverts et qu'on avait suivi les demandes du client final bien en amont, on n'aurait peut-être pas eu de mandataires. C'est exactement le même problème des pharmacies et des parapharmacies ou des cigarettes électroniques et des buralistes. Il y a un premier sujet. Et aujourd'hui, il est hyper difficile de recruter justement en agence parce que pendant des années, l'ancienne garde, l'ancienne génération, on l'appellera comme on veut, avait une relation au collaborateur qui n'est plus du tout celle que le collaborateur est prêt à accepter aujourd'hui.
Totalement vrai.
Voilà.
Et le négociateur a été de la chair à canon. Tu vois, moi, j'utilise une expression,
mais c'est vrai,
je m'assure.
C'est une réalité. Moi. J'ai commencé il y a plus de 20 ans dans le métier. Je peux t'assurer.
On n'en a pas, c'est pris
soin. Il fallait être très courageux.
Mais bien sûr.
Réflexion, Julien.
Ouais, sur le sujet du dérèglement climatique, et c'est un bon exemple par rapport à l'importance de l'agent immobilier dans la transaction et dans l'intermédiation, on voit bien que le réchauffement climatique a un impact évident sur la valeur des biens. On parle souvent de DPE, mais on pourra très prochainement parler de pénurie d'eau sur certains territoires qui va mécaniquement diminuer la valeur des biens. On parle aussi de canicule qui, pour certains logements, c'est un vrai problème, ce qui devient invivable de dormir l'été dans son logement. Et donc on voit bien dans ces différents exemples que je vous donne qu'il est important d'avoir un intermédiaire qui va s'assurer que ni le propriétaire, vendeur, ni l'acquéreur est lésé dans l'opération.
Il n'a jamais été autant plus important pour un particulier d'être sécurisé par un agent, par un conseiller immobilier, un agent immobilier quel qu'il soit. Jamais. Il y a beaucoup trop de règles aujourd'hui pour s'amuser à vendre de gré à gré.
Et les mandataires ont quand même eu un effet, en tout cas il y a une concomitance. Le taux de pénétration des professionnels, c'est-à-dire la partie intermédiaire. Aujourd'hui on s'accorde à dire que c'est 35 ou 40% qui n'est pas intermédiaire. Le reste est intermédiaire. Ça a cru dans les 10 ou 15 dernières années. Et curieusement, les réseaux de mandataires sont arrivés. Il est certain que la multiplication des négociateurs professionnels sur le terrain, le maillage, ça a conduit à faire reculer la part non intermédiaire.
Et il y a un dernier point là-dessus, c'est que depuis des années, on disait, oui, mais les mandataires sont des gens en reconversion professionnelle, qui ont été formés, ils viennent manger la part du gâteau. Depuis le 1er janvier 2024, cette année, et on le voit bien, les mandataires, les nouveaux mandataires sont quoi ? Sont des conseillers immobiliers en agence qui ont plus de 10 ans d'expérience et qui justement, parce qu'à un moment, ils ont voulu grandir, qu'ils n'ont pas été accompagnés. Je pense aujourd'hui que le dirigeant d'une agence immobilière, quand il a un collaborateur qui est bon, il doit aussi lui donner des parts, s'associer, avoir d'autres façons de gérer son entreprise pour pouvoir l'aider à capitaliser. Parce qu'après, on s'étonne, quand vous avez une agence qui fait 600 000 euros de chiffre d'affaires, que vous avez deux négos, vous êtes très à risque. Parce qu'en réalité, un négo qui commence à faire 250 000 ou 300 000, le jour où il s'en va, vous perdez directement pratiquement 30% de votre chiffre d'affaires. Donc je pense qu'il est vital que chacun modifie sa façon de collaborer avec ses collaborateurs. C'est devenu des partenaires, un peu comme on retrouve dans les avocats, etc. Oui. Aujourd'hui, on a besoin de partenaires.
On leur donne combien ? Comment ça se passe ?
C'est pas forcément.
Imaginons, vous avez une entreprise, une.
Mais aujourd'hui, un réseau de mandataires, quand vous êtes conseiller immobilier en agence, classiquement, et que vous prenez 50% à l'entrée et à la sortie, il est sûr que quand on vous fait commencer comme mandataire et que vous allez prendre 65-70 et qu'on vous promet d'aller jusqu'à 90%, quand voire 100%, quand vous êtes un expert de l'immobilier, parce qu'un conseiller qui a 10 ans d'expérience, qui fait 300 000 euros par an.
90% de les honoraires. Hein.
Ah oui, c'est des honoraires perçus.
Ah, oui, attendez,
soit entrée-sortie, soit que sortie ou entrée.
Voilà. Oui.
Non, et bien forcément, c'est aussi, donc je pense qu'il est vital, et je le dirai jamais assez, je le pense, que aussi nos syndicats aident les agents immobiliers à se moderniser. Il est vital. Voilà.
Il reste 2 minutes et je voudrais qu'on fasse un focus avec vous, Henri Buzigazo, parce que vous devez aller voir notre cher ministre du Logement. Je voudrais vous faire réfléchir sur 3 points essentiels. On a évoqué le principe de réglementation. On ne sait pas si ce combat sera gagné d'un point de vue législatif. En tout cas, la profession s'organise. Première réflexion, c'est l'organisation de la profession, parlant d'une seule et même voix éventuellement à l'égard d'un législateur qui est compliqué. Et je sais que vous avez beaucoup milité, d'ailleurs, dès le début.
Oui.
Vous avez milité pour 2 choses. Vous avez milité, 1, pour le regroupement des professionnels, et 2, pour la fonction ordinale.
Oui.
Absolument. Et d'ailleurs, quelque part, tout ce qui est en train de se produire, ça ne dit pas son nom. Réflexion notamment sur la création de la Commission nationale de discipline et la Commission de contrôle, qui est un vrai sujet, bien évidemment, à l'instar de ce que font les BEPS.
Et la formation obligatoire pour les collaborateurs habilités, car aujourd'hui, le renouvellement impose la formation continue, mais il n'y a pas d'obligation pour un négociateur d'un niveau minimum de formation.
Exactement.
C'est dans la loi de 2014, en temps de décret.
Et je voulais aussi vous faire réfléchir sur l'actualité, puisque Débat IMO, c'est aussi le rendez-vous de l'actualité, les amis. C'est la feuille de route. Alors, loi adoptée d'Anaïs Le Meur sur l'endiguement, endiguer le marché locatif saisonnier.
Oui.
Adoptée. adoptée par les deux chambres.
Oui.
Et actuellement, le ministre Kasbarian, que vous rencontrerez tout à l'heure, vous lui saluerez de notre part d'ailleurs.
Je le ferai.
Ce cher Guillaume, a déroulé sa feuille de route au Sénat, et pas plus tard qu'il y a 10 jours, dans laquelle il a déroulé ses fameuses 4 propositions, qui d'après lui verront le jour et feront l'objet d'une autre loi, une autre loi Kasbarian, parce que je rappelle que ce même ministre, alors qu'il était député, avait fait adopter la loi anti-squat. Voilà, réflexion d'Henri Buzicazo sur tous ces éléments-là.
Bon, on a un ministre actif. Il y a un projet de loi qui est écrit, qui a été déposé sur le bureau des assemblées. Sa lecture au Sénat va commencer là dans les semaines qui viennent, et puis ensuite l'Assemblée à la rentrée. Avec 14 mesures exactement dans le projet de loi, et le Parlement, Guillaume Kasbarian l'attend, va en rajouter beaucoup, pour un logement abordable. C'est le cœur du sujet dans notre pays. Le logement est trop cher. On s'en est accommodé depuis toujours, depuis dizaines d'années. Il a fallu que les taux d'intérêt augmentent pour que l'inflation passe par là, pour qu'on se dise, mais c'est terrible, qui peut acheter un logement? Tout d'un coup, il y en a la moitié des Français qui ne peuvent plus. Bon, il est trop cher le logement en France. Donc la question du logement abordable, avec la maîtrise du foncier, la simplification des procédures, quantité de choses, logement HLM, accès au logement HLM aussi, il y a beaucoup de choses dans le projet de loi, déjà de Guillaume Kasbarian. Il a ouvert un certain nombre de pistes, et il va en sortir un texte, j'en suis sûr, qui va apporter des solutions. Bon. Et le logement reste un thème qui peut être consensuel entre les groupes politiques, l'Assemblée au Sénat. Ce soir, il y a un grand débat pour les européennes, entre le Premier ministre et puis la tête de liste RN aux européennes. Eh bien, sur le logement, on peut trouver des points d'accord entre le RN, LFI, Renaissance, etc. Parce que c'est un sujet crucial. Bon. Donc, Guillaume Kasbarian est actif et il va trouver des consensus et je suis sûr qu'il apportera. Après, il y a la question de la loi de finances qui va se présenter. Et là, je pense que Guillaume Kasbarian sera pour nous un bon avocat de la cause. Mais il se heurte à un dogme du président de la République, du ministre de l'économie, qui est de dire plus un sou pour l'immobilier et le logement. Tout ça, ça nous a coûté trop cher, et d'ailleurs on n'a pas d'argent. Et je pense qu'il va falloir mettre un petit peu de carburant dans le véhicule, parce que c'est le secteur dans lequel les effets de levier pour créer de la richesse pour le pays sont les plus forts. Voilà. L'an dernier, 2023, les logements qui ne se sont pas construits, qui ne se sont pas vendus, en gros, on a perdu presque 50% du marché du neuf et 30% du marché de l'ancien. Bon, je simplifie. Hein. Eh bien, ça nous a coûté, au bas mot, 12 ou 13 milliards. Quand le ministre de l'économie dit il faut qu'on trouve 10 milliards qui manquent à l'appel, ben, moi je lui dis, mais nous les avions, nous savons où les trouver. On construit davantage en rentrée de TVA,
on vend davantage en
rentrée de droits de mutation. Les
mais
villes là, c'est tombé aujourd'hui, Sylvain, dans votre confrère des Échos, les villes qui vont faire exploser leurs taxes foncières. Eh ben oui, parce que effectivement, le marché de la transaction est venu appauvrir les collectivités locales. Eh bien, elles trouvent l'argent où elles peuvent parce qu'il faut qu'elles continuent
et
à fonctionner.
C'est le seul relais fiscal.
Bien sûr.
C'était le même problème avec la transformation des bureaux en logement au niveau des taxes auprès des maires.
Alors, vous devez partir, Henri, mais dernière question vraiment, et je vous laisse partir. On continue le débat. Les amis, et crainte. Anaïs Le Meur, la loi adoptée, favorable.
Et c'est un joli travail. Il y a deux choses. On a besoin d'un parc locatif privé, social aussi, mais là on parle de locatif privé, de première importance. Dans les années qui viennent, les ménages français achèteront de moins en moins, quoi qu'il en soit, parce que les fondamentaux économiques sont ceux-là. C'est plus difficile d'acheter, Xavier le disait. Mais il faut se loger, et donc c'est le choix du locatif. Ce locatif, il a besoin d'une offre. On ne l'a pas. Alors on ne l'a pas pourquoi? Pour deux raisons. Et là, on vient de traiter une raison. Il y a une distraction du parc locatif dans beaucoup de nos villes, là où il y a des tensions, c'est le cas de Paris, c'est le cas des grandes métropoles, c'est le cas des villes littorales ou en montagne, où on est allé préférer le Airbnb, on va dire. Bon, c'est une marque. Hein. La location meublée de courte durée, parce que...
Bah ça présentait tous les avantages.
Parce que la fiscalité... Voilà. Bon, c'était
rentable.
Exactement.
Pas trop compliqué, une plateforme qui gère tout.
Pas d'obligation de transition environnementale.
Et surtout...
Royal au bar.
Royal-Bas, parce qu'en plus, une rentabilité à deux points.
Et donc, les propriétaires, ouais. Vous ou moi,
on peut se mettre à leur place.
En oubliant d'ailleurs, ouais. Je suis basque, le Pays basque est l'un des territoires les plus atteints par ça. Et donc, on voit des propriétaires basques, des gens très authentiques, qui font du Airbnb avec. et qui défilent parce que leurs propres, enfants ne parviennent pas à se loger leurs propres enfants, c'est l'infirmière c'est libérale, etc. Ouais. Donc, ça, on a durci les règles du jeu pour simplifier, et cette loi, c'est désormais une loi, enfin pas tout à fait, elle sera promulguée dans les heures qui viennent. Oui, c'est très bien. Le deuxième sujet, c'est qu'il suffit pas de taper sur ce qui était extrêmement sexy pour faire venir les investisseurs sur la location de longue durée, classique. Et que là, on attend un statut fiscal équitable. Et ça encore, ce sera la loi de finances. Ça peut pas être dans la loi, projet de loi Kasbarian, c'est la loi de finances pour 2025. Un projet de loi avec un statut de l'investisseur,
incitatif.
Dans le neuf, dans l'ancien rénové, incitatif.
Bien sûr.
Pas une niche fiscale, pas ce qu'on a connu par le passé, c'est fini. Il y aura plus de Pinel, il y aura plus de... Voilà, moi j'ai connu le premier dispositif auprès de Pierre Méhaignerie, c'était pas hier. On a eu 40 ans de défiscalisation, c'est fini, on a compris. Ça coûte trop cher, il y a eu des
erreurs.
Donc ça
ne reviendra pas.
Mais il faut, voilà.
Ça ne reviendra jamais.
Jamais.
Ça ne reviendra jamais, de toute façon, à cette hauteur. Il y aura peut-être des choses.
Avec le nouveau président de la République ou la nouvelle présidente de la République.
Eh bien, je vais dire une chose, Sylvain. Moi, imaginons un nouveau président ou une nouvelle présidente de la République, je ne demanderai pas ça. C'est tentant de dire allez bon, on va remettre un petit peu un cataplasme ou un truc sur l'organisme. Non, il est vrai qu'une fiscalité durable, moins généreuse, mais durable, qui va pas bouger chaque année, qui sera dans le code général des impôts, avec un système d'amortissement, pour simplifier, moi je préfère ça. Donc demain, il y aurait un président qui serait plus à l'écoute que l'actuel.
On a un peu de mal avec Emmanuel Macron. Pourquoi pas?
Ben moi je demanderai pas ça. Je dis que il faut un statut équitable avec un amortissement qui soit variable selon le niveau du loyer et selon la qualité du logement. En gros, c'est ça, hein, les deux variables. C'est de ça qu'on parle. Guillaume Kasbarian y est favorable. Est-ce qu'il emportera le morceau auprès de Bercy et auprès de l'Élysée? On va l'aider, on va pousser en mêlée, hein, comme on dit, je crois qu'il fait du rugby, voilà, j'en ai fait un peu, lui est un homme jeune, je crois qu'il en fait encore, il est taillé, on va pousser en mêlée, mais il faut arrêter de dire que en ne faisant rien et juste en dégradant le statut du loueur en meublé de courte durée, on va régler le problème. Tant mieux si des gens disent, ah ben moi le Airbnb ou autre, allez je vais en faire moins, mais c'est pas pour ça qui feront de la location de longue durée. Il faut les deux à la fois. On n'a fait que la moitié du boulot avec la proposition de loi d'Annaïg Le Meur.
De toute façon, Sylvain, on ne pourra pas faire de magie. Aucune magie. On ne pourra pas. Regarde même ce qui se passe en dehors de l'immobilier, dans le milieu hospitalier. Aujourd'hui, quand tu vas aux urgences, tu attends 8 heures, tu as les gens dans les couloirs, etc.
Oui.
Il n'y a pas que l'immobilier où ça ne va pas bien, il faut quand même qu'on se
Bien sûr.
Voilà.
Merci beaucoup Henri Buzy-Gazon.
Merci,
vous
Sylvain.
Êtes contraint de nous quitter. C'est toujours un plaisir d'avoir Henri pour discuter de ces choses-là. On va continuer
Je
le débat.
Continuer.
On vous laisse aller. Justement, Xavier Bellevaux, quand on voit justement toutes les difficultés auxquelles on fait face, que ça vous inspire justement tous ces éléments législatifs?
Moi, ce que ça m'inspire, en tout cas, c'est qu'il y a eu, on peut aussi taper sur l'État, c'est facile, mais il y a eu beaucoup d'aides au fur et à mesure des années qui ont été présentes. Il y en a eu. Il y a eu des efforts qu'on fait, mais il y a eu, comme d'habitude, dans toute
règle. Et vous,
vous
n'êtes pas favorable, à l'instar de ce que dit, au maintien des aides, une niche fiscale. Je prends l'exemple du Pinel, par exemple.
Moi, je suis favorable à un Pinel un peu différent, mais je suis aussi favorable à ce que disait Henri. Je pense qu'il est important aujourd'hui de comprendre que l'immobilier d'avant, il était avant. On ne pourra pas revenir en arrière. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit tous conscients que les prix sont bien trop hauts, que les possibilités de financement sont bien plus faibles qu'avant, parce que l'inflation est bien plus forte et qu'il est beaucoup plus économiquement difficile d'avancer. Alors après, effectivement, je pense que le ministre fait ce qu'il peut aujourd'hui dans les conditions, et j'ai un peu le sentiment que de toute façon, il y a quand même une marmite, enfin ce qu'on appelle un chapeau sur un couvercle sur la marmite, qui fait que il va avoir beaucoup de mal. Donc on a besoin, nous, dans l'immobilier, de l'aider, de le pousser à faire en sorte qu'on soit plus puissant avec lui pour avancer. Mais il faut qu'on retourne aussi et qu'on retrouve de la construction de logements neufs et qu'on régule également les logements sociaux.
Merci beaucoup, Xavier Bellevaux. Salut les amis, vous êtes sur Débat Immo, Radio Territoria, Radio Immo, le vrai du faux, c'est maintenant. Et on est à le plaisir d'accueillir dans le vrai du faux, on va vous poser des questions très techniques pour vous permettre justement de mieux comprendre l'actualité. Notre amie Cécile Rocklore est avec nous, porte-parole du courtier Empruntis.
Bonsoir.
Salut Cécile, et merci de prendre le temps pour faire cette météo des taux. Il y a eu une variation considérable cette année, des taux avec vraiment un effet yo-yo. Ceci dit, on a quand même un peu rasé gratis pendant quelques années, une bonne dizaine d'années, avec des taux incroyablement bas. Inutile de dire que le loyer de l'argent était très très faible. Si aujourd'hui on devait comparer la situation avec celle qu'on a connue, la première question sur laquelle on va tous faire notre deuil, on ne revivra pas l'époque qu'on a traversée, Cécile ?
Alors, faut jamais dire jamais, hein, parce qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait, mais quand même, vous avez raison, on a connu une époque complètement historique. En fait, le loyer de l'argent, il n'était même pas cher. On vous payait pour emprunter, finalement, parce qu'avec l'inflation, tout le monde était gagnant. Et donc, cette période-là, oui, elle est un peu particulière, et c'est quand même assez rare dans une histoire économique d'avoir ce genre de situation avec ce cumul d'événements. Donc, on a fermé cette parenthèse. On a effectivement, comme vous disiez, Sylvain, eu des augmentations de taux très significatives pour atteindre un plafond en décembre 2023, puisque je vais vous parler de taux moyen, ça ne veut pas dire qu'on empruntait à ce taux-là, mais quand même globalement, on était à des taux autour de 4,5 sur 20 ans. Ça veut dire mécaniquement que certains emprunteurs payaient un peu moins cher l'argent, mais que d'autres étaient au-delà de 5%. Et vous l'évoquiez, on est maintenant une période de baisse. Depuis début janvier, on voit des baisses qui sont assez généralisées sur les établissements au mois de janvier, un petit peu moins en février. Enfin, on voit qu'on est en train d'atterrir et on atterrit quand même en ayant gagné en moyenne 50 points de base. Alors, si je vous dis ça, ça ne dit pas grand-chose.
Alors, justement, on va faire le point. On va faire le point. Trois questions. À aujourd'hui, à quel taux peut-on espérer sur des crédits qui sont entre 10 et 15 ans ?
Alors, entre 10 et 15 ans, vous allez être aux alentours de 3%, 3,5% si vous n'avez pas un profil hyper sexy pour un banquier. On a des taux qui ont vraiment baissé sur 15 ans. La banque la moins chère aujourd'hui propose 3,35 au barème et c'est négociable.
Entre 15 et 20 ans.
À 15 ans. 20 ans, on passe déjà une étape, on va plutôt être à 3,5, 3,9. Et puis, si vous passez le cap des 25 ans, vous vous approchez d'un 3,7, 3,8 à un peu plus de 4%.
Ah oui, quand même. Hein, quand même. Autre question, est-ce que ça a réellement désolvabilisé les Français ?
Alors, mécaniquement, hein, quand vous passez de la période que vous évoquiez où on était à 1% de taux moyen sur 20 ans à 4%, vous perdez 20% de votre pouvoir d'achat en matière de taux de crédit. Donc, mécaniquement, soit vous avez une enveloppe réduite, soit vous ne pouvez plus emprunter ce dont vous avez besoin parce que vous parliez de prix de l'immobilier. Bah oui, les prix ont augmenté et ils n'ont pas baissé dans la même proportion que l'augmentation des taux dans les deux dernières années. Donc, oui, ça a un impact sur les ménages et puis ça a un impact psychologique. On n'en parle pas beaucoup parce qu'on voit que le marché a du mal à repartir. Ce n'est pas seulement une question de solvabilité ou de pouvoir d'achat, c'est aussi une question de psychologie des acheteurs qui se demandent si c'est encore le bon moment de devenir propriétaire ou s'il ne faut pas attendre une période
bien
un
sûr.
Peu plus propice sans être sûr qu'elle arrive un jour.
Avec l'espoir que les prix baissent. Je prends par exemple les paiements cash. Ils sont passés de 15% à 45%. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a des personnes qui encore achètent cash à la propriété. Mmh. C'est quand même incroyable. J'ai une dernière question pour cette météo des taux. Plus que jamais, aujourd'hui, l'intermédiation, et là pour le coup, vous en tant que courtier, vous savez très bien de quoi on parle, devient plus jamais que nécessaire. Est-ce que vous confirmez que les banques réouvrent les vannes du crédit ?
Clairement, elles les ont réouvertes. Elles ont commencé en septembre 2023. Au mois de janvier, on avait tous les acteurs qui étaient sur la place. Et ils ont tellement d'appétit pour le crédit parce qu'ils n'ont tellement pas fait leurs objectifs qu'aujourd'hui, ils sont prêts à négocier, même sur des dossiers classiques. Et pour pouvoir négocier, il faut les mettre en concurrence. Et
bien
pour
sûr.
Les mettre en concurrence et mettre en concurrence les bonnes, il faut s'adosser à un expert.
Et voilà, toujours une bonne leçon que nous avons apprise grâce à vous. Merci Cécile. Cécile Roquelaure, porte-parole du courtier empruntiste, le bon réflexe pour trouver votre crédit immobilier. Merci Cécile. On enchaîne tout de suite avec le Lab. Vous êtes toujours dans Débat Immo. Bonjour Jourlien et merci encore une fois à Xavier d'être resté sur le plateau pour cette première de la collection Débat Immo. On a compris, vous accompagnez les professionnels dans finalement cette gestion presque anthropologique, de transformation incroyable que représente la rénovation énergétique, ou même plus largement ce que j'appelle moi l'éco-rénovation de l'habitat.
C'est ça.
Habitat collectif comme habitat individuel.
C'est ça. L'idée est bien de se dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu pour les professionnels de l'immobilier. 70% des logements ont aujourd'hui une classe énergétique D, E, F ou G.
70%.
70%.
C'est énorme.
Oui, on ne sait pas, mais c'est
70%. Sur 38 logements, 38 millions de logements.
Exactement, exactement. En effet, la majorité des logements aujourd'hui ont été construits.
Mais qui sont les plus fustigés, le logement individuel, genre les maisons, ou plutôt les logements collectifs?
Eh bien, c'est plutôt, si on prend le modèle thermique qui permet de calculer la classe énergétique, c'est plutôt la maison individuelle, puisqu'elle est exposée aux quatre vents. Hein, c'est simplement, c'est thermique. Et donc aujourd'hui, les maisons individuelles sont principalement, on parle beaucoup de petits logements qui sont classés G, mais la majorité des logements G sont aujourd'hui des maisons individuelles chauffées au fioul ou chauffées à l'électrique.
Alors vous allez fort hein, sur Kazam. Parce qu'en fait, votre activité, c'est que vous disposez d'un logiciel SaaS que vous mettez à disposition des agents immobiliers et vous soutenez l'action en les formant aussi à avoir une approche structurelle qui d'ailleurs devient essentielle, hein, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus photo. Dans la shortlist, mais ça, Xavier connaît très bien le sujet, dans la shortlist des critères d'achat des clients aujourd'hui, le DPE, c'est presque numéro 1. Quoi,
ah bah, c'est numéro 1 ou numéro 2 après l'emplacement, c'est une réalité.
Après l'emplacement, absolument.
Voilà, après l'emplacement, c'est une réalité. Et forcément, et le budget. Les trois sont liés.
Voilà.
Et le budget.
Ce que l'on dit, nous, c'est que c'est pas un facteur de choix, c'est un facteur de justification du prix qui est, en effet, premier ou deuxième.
Alors justement, j'y viens. Vous agissez sur le DPE en proposant un simulateur de DPE.
Oui.
Donc ça c'est bien, c'est smart parce que du coup on a une approche là-dessus. Ça ne veut pas dire que vous enlevez du job, du boulot au diagnostiqueur.
Non, pas du tout. L'idée c'est de se dire que lorsque l'agent immobilier intervient, le diagnostic n'est pas toujours posé. Pourtant il est un élément indispensable pour valoriser un bien.
Et qui sera obligatoire, qui est obligatoire.
Et qui est obligatoire mais qui arrive dans un second temps. Oui. Donc l'idée est tout de suite de pouvoir poser une estimation qui est en phase avec le diagnostic.
On va faire basique.
Ouais.
Je suis agent immobilier, je suis négo, voilà. Et je bosse pour WeInvest. J'ai oublié notre papillon. Je bosse pour WeInvest. Bon, WeInvest, bonjour. J'arrive, je me pose.
Oui.
Et avec Kazam et l'application que vous avez sur mon smartphone.
On définit une estimation de la classe énergétique.
Ah bon?
Oui. Voilà.
Et à combien de pourcents au niveau de la réalité? Parce que ce que tu sais pas, moi j'ai vraiment voulu que Julien soit présent. Parce que moi j'ai été bluffé. En fait, par cet outil, parce que je pense qu'on est à plus de 85% aujourd'hui, ou 90% pratiquement maintenant, d'approche réelle par rapport au DPE une fois qu'il est livré. Voilà. Et ça permet en moins de 8 minutes top chrono, très exactement, de pouvoir en fait renseigner, faire comme un, alors j'aime pas ce terme, mais comme un prêt DPE, et de pouvoir renseigner en réalité le vendeur sur la réalité économique. Et moi, c'est un sujet qui est hyper important pour moi. Depuis des années, je me bats sur qu'on soit, peu importe notre enseigne, sur le fait qu'on soit conseiller immobilier, on a besoin de compétences, on a besoin de formation. Plus que jamais, chaque année, il sort des nouvelles obligations. Et je trouve que, alors on voit plein de startups en IA, et ça on voit plein de choses, mais je pense qu'aujourd'hui, de pouvoir avoir quelqu'un qui nous accompagne dans la rénovation énergétique, qui nous permet de pouvoir intervenir avec conseil et sérieux auprès de notre client final, et aussi de pouvoir devenir un argument de négociation, c'est quelque chose qu'on avait réellement besoin.
Pour reprendre un exemple simple, lorsqu'un agent immobilier souhaite faire une estimation, lorsque le propriétaire ne connaît pas la surface de son bien, il sort son mètre laser pour calculer la surface du bien. Et bien aujourd'hui, la classe énergétique, ça a à peu près le même niveau d'importance.
On est d'accord, justement, mais que qu'on comprenne bien, parce que c'est un vrai sujet, et vous le savez, puisque entre rétropédalage multiple sur les financements, il y a aussi rétropédalage sur la qualité des DPE. C'est pas à vous que je vais apprendre qu'il y a déjà eu un DPE catastrophique qui a été revu par Emmanuel Wargon, qu'on a appelé le nouveau DPE, et qui d'ailleurs a obligé le gouvernement à indemniser plus de 80 000 DPE, vous rappelez, à l'époque, hein, c'est le DPE qui n'avait pas intégré dans le moteur de calcul les matériaux d'avant 1975. Bref, comment on fait? Je voudrais vraiment comprendre. Je suis sur site, j'ai l'application Kazam, ou le système de simulateur. À partir de quoi je peux simuler le... Parce que vous dites, si je reprends vos propos, que 8 fois sur 10, vous ne vous trompez pas.
Non, on ne se trompe pas parce qu'on pose en fait les questions principales qui définissent la classe énergétique. Donc c'est des questions du type, quelle est la surface du bien? L'information majeure. Le nombre de fenêtres, la génération de la fenêtre, est-ce qu'on est sur du simple vitrage, du double vitrage? Est-ce qu'une rénovation énergétique a déjà eu lieu sur les murs? En fait, on n'a finalement pas toujours besoin de savoir si elle a eu lieu en 2020 ou en 1990, parce qu'en fait, la réglementation et le calcul est fait d'une certaine manière que nous, on le maîtrise et on pose les bonnes questions.
Donc, c'est des requêtes sur des questions? C'est un Est-ce que, par exemple, vous dites combien vous dépensez d'électricité?
Alors,
est-ce que vous repérez le fait qu'il y a un radiateur?
Un estimatif.
Ouais,
qui est fait.
On fait un estimatif de la facture et en plus, on demande quelle est la facture réelle, de sorte à ce que lorsqu'on projette des travaux, on puisse se baser sur une facture réelle et non pas sur une facture fictive, puisque entre des particuliers qui chauffent à 18 et d'autres qui chauffent à 22.
Mais l'agent immobilier, il ne regarde pas, il dit tiens, ah, ça, c'est un chauffage thermique avec une pompe à chaleur haute définition. Enfin, il s'appelle haute performance. Là, par exemple, on est raccordé sur tel truc. Donc, il ne regarde pas ça.
Il regarde si simplement, il décrit ce qu'il voit dans la maison sans avoir à prendre de mesures.
Ok, et derrière, vous avez construit donc un algorithme.
Qui est le même algorithme qu'utilisent les diagnostiqueurs.
Qui est un algorithme qui en fait définit, avec toutes les données dont ils disposent, la classe énergétique.
Voilà, on utilise le même algorithme que celui utilisé pour le DPE.
Et ça fait pas doublon avec le diag, parce que le diag aura lieu.
Non, il aura lieu, et une fois qu'il aura eu lieu, on ingérera l'ensemble des résultats pour repartir de cette base dans notre outil, puisqu'en effet, c'est le professionnel.
Et Sylvain, et ce qui est important de dire, c'est qu'une fois que ça s'est fait, ça permet aussi aux professionnels de l'immobilier de pouvoir aider son client vendeur avec un certain nombre d'actions. Voilà, un certain nombre d'actions qui lui permettraient de peut-être vendre à un meilleur prix au prix de marché s'il faisait un certain nombre d'actions. Et ça permet de voir également quelles sont les actions, par exemple changement des fenêtres, isolation par l'extérieur, pour voir à quel moment de sa classification, par exemple, qu'elle soit E, puisse devenir C ou B. Voilà.
C'est donc une approche contingente, pour dire les choses avec un bon français, pour apprécier, parce que je suis agent immobilier, la valeur de l'actif.
Exactement.
Bien sûr.
Parce que mon boulot, avant tout, d'être agent immobilier, c'est de faire un avis de valeur.
Exactement.
C'est vraiment le fond du fond. C'est d'accompagner mon client en disant votre valeur. Et pas la valeur que veut le client, non. La valeur que l'agent immobilier professionnellement, etc. J'ai, dans une autre vie, quand je pratiquais, je disais au client, c'est pas vous qui définissez la valeur, c'est moi parce que c'est mon métier. Vous n'allez pas dire à votre cardiologue, non, c'est pas au cœur que j'ai mal, c'est au pied. Bon, donc c'est la même analogie. Donc c'est intéressant parce que grâce à votre outil, un peu comme par exemple des applications qui calculent la luminosité d'un bien, par exemple, qui fonctionne plutôt pas mal, vous êtes un des éléments d'aide à la décision et vous enrichissez la capacité commerciale et technique.
Exactement.
De l'agent immobilier.
On donne les éléments.
C'est smart. Hein.
Mais, et d'un autre côté, c'est aussi, ça devient un vrai argument business. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as face de toi un acquéreur qui a un coup de cœur sur cette maison, etc., qui a du mal à se projeter et qui dit, mais attendez, il y a quand même 25-30 000 euros, en fonction de ses revenus, etc., bah, il peut aller prétendre à certaines aides. Et donc,
est-ce
ça devient un vrai argument.
Est-ce que vous êtes capable de faire des simulations d'aide potentielles sur MaPrimeRénov?
Bien sûr.
Est-ce
bien
que,
sûr.
Par exemple, vous êtes habilité aussi à évaluer les volumes du C2E, des C2E?
Oui, tout à fait.
Parce que c'est dispositif privé, les C2E,
oui,
avec un dispositif privé.
On calcule MaPrimeRénov et les C2E sur les deux parcours qui sont le parcours de rénovation dit par geste et le parcours de rénovation d'ampleur.
Le parcours d'ampleur. Donc ça veut dire que je simplifie, comme ça j'ai bien compris. Je suis agent immobilier, je suis capable, avant même d'aller voir mon accompagnateur Rénov, qui a été défini dans le cadre de la loi et du décret sur le l'ANA, de vous dire, monsieur... vous êtes certainement dans une étiquette D et vous avez 35 000 euros de travaux à faire. Et vu votre dossier, vous pouvez à l'aise avoir 22 000 euros d'aide.
Tout à fait.
Genre. Donc vous aurez un reste à charge. Et si vous le faites, on a un écart de prix beaucoup plus favorable qui est de l'ordre de 14% ou 15%.
Tout à fait.
C'est ça l'idée.
C'est exactement ce qui se passe.
Ça redonne des marges de négociation.
C'est vachement
voilà, c'est ça.
Ça redonne des marges de négociation. Et c'est à deux sujets. Ça permet déjà...
Alors, je ne veux pas faire les travaux, mais je baisse
voilà,
de 14 000.
Exactement. Ça permet aux conseillers immobiliers d'avoir toutes les armes parce qu'il y a un autre problème aujourd'hui. Le marché dans l'ancien va mieux, les banques reprêtent, mais c'est devenu un vrai sujet qu'on ne dit pas au niveau des banquiers. Quand aujourd'hui, il y a trop de travaux à prester, c'est pour un primo-accédant ou autre, on va faire très attention à ces éléments-là. Donc, plus que jamais, on a besoin de se former et d'avancer. Et je pense que Casam Pro, aujourd'hui, est une très bonne solution.
Vos clients, ces agents immobiliers, ça coûte combien quand on veut utiliser Casam?
C'est 19 euros par mois.
Voilà, tout simplement.
Simplement.
C'est forfaitaire, c'est lisible, c'est une offre canon. Bravo, bravo.
Et donc, pour
et
compléter...
Ça, et ça cartonne, Casam, ça va?
Ça cartonne et on lance une offre de formation. Parce qu'en fait, c'est la clé. Utiliser une solution, mais quand on parle de sujets nouveaux, il faut un minimum de formation. Et donc, on accompagne
okay,
les agents.
Et la formation, elle est gratuite?
La formation, elle est payante.
Ah bon, et ça coûte combien
Donc, c'est un programme de 20 heures et donc, c'est facturé 690 euros par
Ah oui.
Personne formée, en effet.
Ah oui, vous y allez pas main morte. Et c'est une formation à distance, je suppose?
C'est une formation à la fois à distance et dans un logement dédié à la formation de diagnostiqueurs. D'accord. Et on a adapté la méthode pour
avec
les agents
immobiliers. Avec des situations réelles et concrètes. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais très peu de publicité, mais pour Winvest, j'ai mis en place un parcours éco-conseiller avec une labellisation, justement avec le concours de Kazam Pro et de mes équipes.
C'est intéressant, pour proposer, tous ceux qui se mettent à la formation avec des plateformes de trucs. C'est un vrai mouvement.
C'est un vrai sujet. C'est-à-dire que plus que jamais aujourd'hui, on a besoin, que ça soit dans l'avatarisation, que ça soit dans autre chose.
Je vous dis ça parce que j'ai la chance de concourir à une nouvelle start-up qui utilise l'IA pour faire de la formation professionnelle pour les agents immobiliers.
Ouais. Nous, à la base, on fait de la tech. On commercialisait de la tech et on s'est rendu compte que la formation était indispensable. Donc, on a retourné notre modèle. Et aujourd'hui, on fait d'abord de la formation.
D'accord.
On crée une méthode commerciale au service de l'éco-rénovation. Puis, le logiciel vient
On se retrouvera certainement sur des...
De toute façon, comme dans tout, l'IA, s'il n'y a pas de formation, ça reste un outil. Au bout d'un moment, l'outil, on l'abandonne si on ne sait pas s'en servir.
Et alors, oui, mais d'ailleurs, les grands éditeurs de logiciels que tu connais bien
le vivent au quotidien.
Le font tous, bien évidemment. Eh bien, voilà.
Merci.
Un petit mot de conclusion.
Oh non, mais écoute, je suis ravi de cette première édition. J'étais très content de pouvoir débattre avec Henri, puis avec Julien, et que Céline puisse apporter quelques éléments sur la météo des taux. C'était un vrai plus.
C'est très riche, voilà, beaucoup de contenu. C'est l'objectif qu'on s'est fixé avec Débat IMO. Une collection signée Radio IMO, Radio Territoria et Oui Invest France. Je rappelle aussi que Oui Invest est une filiale d'un groupe belge et on aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir. Chaque émission aura une thématique et toujours avec le même concept. Des débats d'idées, des échanges directs, sans tabou, sans éluder aucune question, mais aussi des focus sur, par exemple, des entreprises innovantes, mais également des météos d'actualité, comme on l'a vu avec les taux. Chaque numéro, voilà, Débat IMO, vous retrouvez le podcast sur l'application de Radio IMO, vous pouvez la télécharger, elle est gratuite, sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve très bientôt pour un second numéro, un nouvel opus de Débat IMO. D'ici là, portez-vous bien.
Débat IMO, une émission proposée par WeInvest, à réécouter et télécharger sur Radio IMO, Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.